La chronique en débat, c'est l'actualité éducative avec l'éditorial de l'Espère, comme l'a vu Maudie Johnson, analysé et commenté par Laurent Ladouce. La chronique en débat, c'est chaque semaine sur la web radio du groupe Éduc Action.
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans votre émission Chronique en débat. Chronique en débat, c'est la réflexion du chroniqueur Maudie Johnson passée à la loupe par nos experts et autres personnes ressources. Ce matin encore, Maudie Johnson partage avec nous sa réflexion sur l'éducation et parle de quelle orientation politique donner à notre éducation, à l'éducation en Afrique. Écoutons-le par l'intermédiaire de Gloria Adivesode qui prête sa voix à la chronique de l'expert Maudie Johnson, sociologue, philosophe, planificateur de l'éducation.
Politique de l'orientation et orientation politique. On a défini la politique de maintes façons. Paradoxalement, nul n'a soutenu que c'était l'art d'éduquer ou d'aider la société et les jeunes générations à se former. Pourtant, c'est connu. Il faut de tout pour faire le monde. Peut-on se passer des politiques, eux dont la grande ambition est de bien gérer la cité? En tout cas, la classe politique de notre beau pays manifeste en ce moment un intérêt marqué pour l'orientation de nos nouveaux bacheliers. Ainsi, au niveau de chaque village ou hameau, les séances d'orientation des étudiants semble attirer l'intérêt soudain de ces notables. Alors qu'ils visitent rarement le village, est-ce l'imminence des élections législatives qui explique leur présence comme l'ont soutenu de méchantes langues? Que de gens de cette qualité s'intéressent enfin à la jeunesse et à son développement est quand même formidable. Les esprits avertis feraient bien d'en profiter pour les inviter à concevoir et voter une réelle politique d'orientation scolaire au lieu de nous proposer des orientations politisées seulement destinées à séduire un électorat fragile et sensible. On ne le dira jamais assez. L'orientation ne se fait surtout pas après les examens. Elle participe d'un processus global et bien structuré qui devrait commencer plus tôt. Il s'agit de répondre aux questions suivantes. Quel type d'éducation et de formation voulons-nous pour la génération à venir? Comment y arriver? L'orientation est un projet de vie complet et complexe qui ne souffre pas de précipitation et implique d'avoir une vision. Ainsi, les conséquences de ces orientations de dernière minute, qui ne sont en réalité que la présentation des différents catalogues universitaires, accouchera de choix de nos filières, soi-disant faciles ou porteuses. En sus, si la politique s'en mêle, il y a fort à parier que la filière qui intéressera la plupart des bacheliers sera la seule qui manquera ici, à savoir comment devenir politicien et savoir parler sans rien dire et sentir le parfum factice de la richesse et de la fausse prospérité. En attendant, deux sujets nous interpellent. Le premier, à quand une véritable politique de l'orientation ? Le second, quels sont les vrais créneaux porteurs pour la jeunesse? Le premier devrait être posé et surtout imposé aux notabilités qui sillonnent nos villes et campagnes à la recherche de l'électorat. Au lieu de nous servir des sandwichs et du bissap, identifier et développer la loi qui nous aidera à promouvoir notre autosuffisance matérielle et spirituelle. Le second, qui est plus délicat, devrait au plus tôt réunir quelques esprits bien avertis de notre système éducatif sont la présence de mercenaires de l'éducation appelés consultants internationaux qui nous nuisent souvent plus que les terroristes et autres Wagner avec la dissémination de projets identiques et peu contextualisés. Quelles seront donc les pistes à explorer? On ne dira jamais assez que l'intervention centrale et essentielle sera la relecture et la réécriture et l'adoption de la loi d'orientation de 2003. En réalité, elle n'est pas obsolète, mais elle a besoin d'être actualisée, recentrée et inscrite dans une prospective et une perspective moderne. Comme beaucoup de nos tests, on se sert de plusieurs de ces fragments sans nécessairement chercher à l'appliquer dans leur globalité. Je me réfère à ce test de référence pour ne pas en arriver au processus habituel d'élaboration de nos documents de planification et de vision. Ces derniers s'enlisent dans des réflexions et des rédactions qui prennent 1 à 3 ans pour une compréhension et un usage peu évident. Ce qui va nous interpeller ici peut être contenu dans la loi d'orientation. Il faudra du temps pour l'élaborer, car il s'agira de poser des questions simples et essentielles aux différentes couches de la population en insistant sur une idée centrale: de quoi demain peut-il être fait pour que nous soyons épanouis, pour ne pas dire heureux. Les repères sont évidents et concernent un développement endogène et auto-centré qui devra être le leitmotiv de la promotion de l'ETFP. Cela signifie qu'il s'agira de regarder réellement autour de nous et promouvoir la sécurité alimentaire à travers des cultures saines et la capacité de nos artisans à développer des outils adaptés. L'autre repère est la popularisation de l'usage utile et l'accessibilité financière des TIC et leur réelle maîtrise pour l'éducation. Enfin, développons et actons des valeurs qui élèvent et endurcissent le caractère de nos enfants afin que les meilleurs ne s'exilent pas trop souvent.
Merci à vous, Gloria Divessode. On comprendra de la chronique de Maudie Johnson qu'il est bien préoccupé par l'avenir de nos jeunes étudiants qui sortent des universités. Il est également préoccupé par l'orientation à travers les offres de formation. Maudie Johnson souhaite la professionnalisation des offres de formation. Qu'en pense notre invité en studio? Tout à l'heure, on fera le débat avec lui, mais avant, nous allons nous rendre à Paris pour retrouver Laurent Ladouce. Laurent Ladouce, comme tous les mardis, qui va commenter cette chronique de Maudie Johnson. Cette chronique lui inspire quoi comme commentaire? Votre commentaire nous intéresse, Laurent Ladouce. Bonjour, bienvenue dans cette émission.
Bonjour, chers auditeurs, ravi de vous retrouver. Intitulé « Orientation politique ». L'éditorial de Maudie Johnson pose la question: quelle politique d'orientation éducative faut-il au Bénin? Vers quels débouchés et perspectives doit-on éduquer les jeunes béninois? Connaissant mal le sujet, je propose de déplacer la question en étudiant les classements des systèmes éducatifs africains, lesquels sont les plus performants. Un système éducatif bien classé aura probablement aussi une meilleure politique d'orientation. Les experts béninois sont-ils prêts à tenir compte des meilleures pratiques du continent africain? Les classements récents se recoupent tous et attribuent la première place aux Seychelles, une île peu peuplée, bilingue, de l'océan Indien, près de Madagascar. Sa voisine, l'île Maurice, qui lui ressemble beaucoup, occupe la troisième place du classement. Ici, on est devant plusieurs hypothèses. L'insularité et une assez faible population favorise-t-elle un bon classement? L'archipel du Cap-Vert se place en 8e position en Afrique. Mieux vaut donc étudier sur une île pas trop peuplée. Le Botswana, continental, mais lui aussi peu peuplé, occupe la 6e place du classement. Mais attention aux généralisations. Nous parlons d'États certes peu peuplés, mais surtout bien gérés et démocratiques. Il faut comparer ce qui est comparable. Le classement montre qu'un citoyen africain d'un pays d'Afrique australe a plus de chances de bien étudier. Ainsi, l'Afrique du Sud est à la 4e place, le Kenya à la 7e, la Namibie à la 10e place. Parmi les 10 pays les mieux classés d'Afrique, 6 sont en Afrique australe, avec une prime à l'insularité, à l'héritage anglophone, à la petite taille. C'est la tendance lourde de ce classement. Le Ghana et le Nigeria, deux pays anglophones proches du Bénin, occupent respectivement les 11e et 12e places. Les pays francophones sont-ils nuls? Non, car la Tunisie occupe le 2e rang et l'Algérie le 5e. Rappelons d'ailleurs que Maurice et les Seychelles ont un double héritage anglophone et francophone. On peut dire aussi que l'Afrique du Nord s'en sort honorablement. Nous avons parlé de la Tunisie et de l'Algérie, eh bien l'Égypte pointe à la 9e place. Le jeune qui étudie en Afrique a donc plus de chances de réussir s'il vit près de la Méditerranée ou bien alors dans une zone australe, plutôt anglophone, où se croisent les influences de l'océan Atlantique et de l'océan Indien et de multiples autres influences, notamment asiatiques. Les régions les plus ouvertes aux influences mondiales, les plus cosmopolites, les plus côtières, réussissent mieux. Le Bénin est un pays stable, en paix. Ce n'est pas une île, mais s'il veut réussir, il a peut-être intérêt à décentraliser son système éducatif et à créer des îlots d'excellence. C'est parfois ainsi qu'un pays va décoller. Le Bénin ferait bien de se doter aussi de quelques établissements vraiment cosmopolites, internationaux, avec des professeurs venant de systèmes différents. Quand on a des voisins aussi bien classés que le Nigeria ou le Ghana, pourquoi se priver de leur expérience? Merci pour votre attention, chers auditeurs. Je vous souhaite une très bonne journée et une excellente suite d'émissions. Bon courage.
Merci à vous, chers consultants depuis Paris, Laurent Ladouce. Retour à Cotonou, retour dans cette émission. Barnabé Kouélo, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Barnabé Kouélo, vous êtes spécialiste des questions éducatives et d'orientation. Vous êtes le promoteur de l'ONG Éducafrique.
Oui.
Alors, vous venez de suivre la chronique de Maudie Johnson. Vous venez également de suivre le commentaire introductif du débat de Laurent Ladouce sur la chronique de Maudie Johnson Réaction.
À nouveau, bonjour à chacun, bonjour à tous. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous. Il faut dire que c'est une chronique qui aborde une problématique majeure, un sujet d'intérêt général. Il faut d'abord dire, premièrement, que nous avons un problème depuis la nuit des indépendances. Autrement dit, on nous a donné un système éducatif. La majorité de ceux, voilà, qui étaient, hein, je vais dire à l'époque, voilà, les décideurs, ceux-là, voilà, je vais dire, sont, voilà, des gens qui ont majoritairement fait des grandes universités de Sorbonne, des gens qui véritablement ont fait, voilà, les grandes universités de l'Europe. La première que ils ont fait, que nous avons faite au lendemain des indépendances, c'est copier 100% sans actualiser, sans mettre véritablement en phase avec, c'est-à-dire ce que nous vivons ici. Autrement dit, nous avons eu un système éducatif. Mais est-ce que ce système éducatif est compatible avec nos enjeux? Est-ce que ce système éducatif est compatible avec les réalités de notre pays? Est-ce que ce système éducatif est compatible avec notre environnement, notre politique, notre économie? Plusieurs éléments, plusieurs paramètres, plusieurs outils qui voilà, devraient voilà, faire objet, hein, je vais dire, de critères ou d'analyse ou, je sais pas, hein, de prise de décision. Mais voilà, nos aînés, nos intellectuels, ils ont failli à ce niveau. Ils ont failli à ce niveau.
Je voulais vous dire que les offres de formation aujourd'hui qui sont validées par l'État central sont des ou sont obsolètes?
Je pense que la réponse à cette question est donnée depuis plusieurs années, plusieurs émissions, plusieurs tables rondes. Je pense même l'année dernière, en février, je pense, à Novotel Cotonou, le ministère de l'Enseignement supérieur, voilà, sous le leadership de Madame
Marie-Odile Atanasio.
Non, Eleonore, voilà,
Eleonore Ladekan
Yaï. Je vous dis, lors de cette table ronde, il y avait beaucoup de ministres, il y avait tous les recteurs, il y avait beaucoup de docteurs, voilà, beaucoup d'intellectuels dans la salle. Et au début, la ministre, dans son message, dans son discours voilà, introductif, elle posait la question. Est-ce qu'il n'est pas temps de fermer certaines filières de nos universités? Est-ce que nous n'allons pas fermer certaines filières de nos universités? En fait, ça, je laisse ce que la ministre a dit. Je prends le DG de la, je vais dire de l'ANP, M. Hubert Mbeki, d'autres, plusieurs d'autres directeurs ou personnalités de l'État, ouvertement ont dit qu'aujourd'hui, nos systèmes, voilà, faillent à dire et à terre. Je pense qu'il y a de cela encore plus d'un an, notre président de la République, son excellent président Talon, lors de sa tournée de reddition des comptes dans les communes, il disait, je cite, peut-être à plat, ouais, il dit, l'école à tous les niveaux nous a formés au bavardage. C'est ce bavardage qui chaque année conduit des milliers de jeunes au chômage. Résultat, la jeunesse qui doit être la solution au développement, cette jeunesse est devenue un problème pour le développement. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Vous prenez quelqu'un qui a licence d'une école peut-être de 400 000, fois 3, ça fait 1 200 000. Il revient, devient Dieu au contrôle à 20 ans. Je veux dire à 27 ans. À 30 ans, il devient Dieu au contrôle. Vous voyez ça? Et c'est ça le problème en fait. C'est ça qui prouve qu'aujourd'hui, c'est-à-dire notre système éducatif est à terre. Vous avez des gens qui se retrouvent avec master, des gens qui se retrouvent avec la maîtrise, avec la licence, qui sont sont en train de faire Zemidjan, qui sont en train de vendre, voilà, à Friperi, hein, à Miseba ou bien en bas de l'échange de Godomela. Il y a plein des activités qui n'ont rien à voir avec le parcours scolaire universitaire. Mais voilà, récemment, je pense, j'étais à Boycon pour un séminaire et le Zem qui m'a pris à la gare, à un moment donné, il a commencé à me poser des questions parce que derrière lui, je faisais des appels. Il dit, frère Baname, vous êtes dans l'éducation? J'ai dit oui. Il a dit, mon aîné a 27 ans. Il est actuellement à la maison. Il a appelé le nom de l'université, quoi. Il a dit, l'aîné a fait l'université et il a encore, voilà, la licence. 400 000 fois 3. Pour un papa qui est zémidien, qui a fait tontine, qui a fait tout pour payer la scolarité de son enfant. L'enfant revient à la maison. C'est le vieux qui me parle. L'enfant cherche femme encore. L'enfant a encore enfant. Je sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, le chômeur là, il a encore enfant quoi. Il a déjà sa petite famille. Mais lui-même, il est incapable de trouver 1000 francs dans une journée. On peut aller où avec ça? Ça là, en fait, je vous
et
demande
tous
en fait.
Ils sont à la charge de leur père.
Oui! Ils reviennent, au lieu d'être une solution pour la nation, au lieu d'être une solution pour les parents, ils reviennent à la maison en devenant des problèmes, des soucis d'hypertension,
vous
des
dites,
causes d'hypertension.
Vous dites
pour les
ainsi que les problèmes sont les mêmes que l'on soit au Togo ou au Bénin.
Quand vous prenez l'espace francophone, c'est majoritairement les mêmes problèmes. Et vous avez posé la question de formation. Je vais vous donner deux exemples pour vous expliquer quelque chose qui
allez-y.
Peut-être, voilà, des gens qui vont faire rire. Vous prenez par exemple un professeur de physique certifié de Sabatier. Quand il vient dans la boîte, quand il vient à l'école, tout le monde est au repos. C'est le professeur certifié, il dresse les formules, il est fatigué au tableau. Mais je vous dis, ce dernier, s'il a un simple problème de court-circuit à la maison, dans sa chambre, il ne peut pas résoudre ça. Il ne connaît pas le processus. Vous prenez un professeur de chimie, je pense que c'est dépassant en terminale, il y a, c'est pas un chapitre ou bien, voilà, il y a une notion qu'on appelle la saponification en chimie. C'est les principes de la saponification utilisés pour fabriquer le savon qu'on appelle Conky. Vous comprenez Conky là?
Oui,
vous connaissez
Conky? Bien sûr, le savon Conky.
Voilà, c'est ce principe que voilà, nos bonnes dames utilisent pour fabriquer le savon à dire Conky. Mais le professeur de chimie ne connaît pas comment fabriquer ça. Vous prenez un professeur, c'est-à-dire titulaire d'université à l'EPAC, École Polytechnique d'Abomey-Calavi. S'ils ont vécu là un simple problème, c'est-à-dire de moteur, je ne sais pas. Dans la rue, il est incapable de résoudre. Mais lui, il est titulaire à l'université. Quel développement on peut avoir avec ça? Essayez de répondre, monsieur. Malheureusement, c'est vous qui posez les questions.
C'est nous qui posons les questions.
Voilà. Quel ingénieur on peut former sans véritablement de laboratoire? Et je remonte encore l'année dernière, toujours la table ronde. Quand je prends celui qui était directeur ou chef de l'école qu'on appelle l'EPAC, il disait, nous n'avons pas de laboratoire d'indinon. C'est pas ma rapportée qui était dans la salle. Nous n'avons pas de laboratoire d'indinon. Quel ingénieur vous voulez fabriquer, vous voulez former sans laboratoire? Et vous allez voir, des téléphones portables, des écouteurs SIM, vous croyez que c'est des gens qui ont un doctorat qui fabriquent ça? C'est des gens qui même pas le bac qui fabrique ça. Ici, c'est la langue de Molière. Récemment, on a fait, notre président a lancé, des statues comme, je vais dire, l'Amazone et d'autres.
Oui, les monuments érigés
voilà, je
veux
dire,
dans
les
la
monuments
République.
Et
oui.
Sur la toile, il y a polémique sur l'écriture de tel. Je ris, en fait. Depuis 1960, vous parlez très bien la langue de Molière dans ce pays-là. On a quoi de manière réelle? Essayez de me dire, et les gens parlent tel, il faut écrire comme ça. Est-ce que c'est ça maintenant un enjeu? Je suis d'accord qu'il faut écrire les choses, c'est-à-dire pour honorer l'image du pays, parce que voilà, des gens vont quitter la Chine partout pour visiter. Je suis d'accord. Mais ça ne doit pas, à dire...
Focaliser
non,
les attentions.
L'enjeu est ailleurs. Je vous dis l'enjeu est ailleurs. Et donc, aujourd'hui, il y a un problème d'inadéquation entre les offres et les problèmes voilà, du marché de l'emploi.
Les offres, vous le dites si bien, vous demandez à ce que nous interrogions les offres de formation. Vous pensez, Barnabé Coelho, que les offres de formation sont plus théoriques que pratiques, c'est cela?
En fait, j'ai déjà démontré comment c'est théorique. Quand vous prenez par exemple vous, monsieur, comment, rappelez-moi votre identité?
Romuald Lobo.
Monsieur Romuald, je prends par exemple notre grand frère qui est derrière, voilà.
Ferdinand Zamba.
Derrière, là-bas. Aujourd'hui, essayez de me dire, durant tout votre parcours scolaire universitaire, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait trois choses. Recopier les leçons, bûcher les leçons et déverser les leçons. Ça dit quoi? Je prends un major d'une promotion. Il est major en quoi? En récitation de leçons. Autrement dit, vous prenez quelqu'un qui a par exemple 5 ans mathématiques. Tout le monde va dire, il est taré, il est zéro, il est ci, il est ça. Mais je vous dis, ce taré en mathématiques là, il y a une domaine, si on l'amène, vous serez dernier et lui sera premier. Ça veut dire quoi? Il y a un réel problème de définition. Et de compréhension, bien, de compréhension en fait. Les offres de formation dont on parle, les curriculaires de formation dont on parle, je prends la géographie. Aujourd'hui, nous avons combien de géographes au Bénin? Et nous avons combien de problèmes de géographie à résoudre? Nous avons combien de problèmes de sociologie à résoudre? C'est comme j'étais à Boycon il y a de cela quelques jours, et je pense que l'actuel maire disait à des nouveaux bacheliers, vous pouvez aller faire la sociologie, je suis d'accord. Vous pouvez aller faire la géographie, je suis d'accord. Mais votre probabilité, votre chance d'insertion est aujourd'hui vraiment, vraiment, c'est-à-dire vraiment nulle. Ça veut dire quoi? L'enjeu est ailleurs. Nos défis sont ailleurs. Les problèmes de notre pays sont ailleurs. Vous prenez par exemple le président Talon toujours. Il dit, pour
pour son projet de fibre optique, ils sont partis ailleurs chercher la main d'œuvre. Pendant ce temps, nous avons 40 000 jeunes en géographie. Nous avons 40 000 jeunes, voilà, hein, je vais dire l'aide moderne, hein, CBG et autres. Et aujourd'hui, vous êtes, en fait, le sujet dont on parle là, ici, dans ce studio, je ne sais pas si véritablement ceux qui sont vraiment concernés l'a dit, savent la valeur ajoutée, quoi, ou bien l'urgence qui est derrière. Vous prenez un jeune qui a 27 ans, qui a 30 ans, qui a 35 ans et plus, mais je vous dis incapable de trouver 1000 francs en une journée. C'est-à-dire incapable. Moi, je dis, qu'est-ce que moi je dis? Si vous avez une licence aujourd'hui, si vous avez aujourd'hui un master 2, et vous-même, votre diplôme ne vous permet pas de manger Kikba Banco, c'est-à-dire, j'ai pas l'enfant, ça vous donne quoi? Fromage local et à Kassa. Si vous ne pouvez pas manger vous-même ça, il faut jeter votre diplôme et oublier que vous avez étudié et rentrer dans la vraie vie pour vous défendre. Si vous voulez, je sais pas si vous avez l'information, c'est sûr que vous avez l'information. Il y a de cela plus de 2 mois, on a commencé par, voilà, trouver sur les réseaux sociaux comme quoi, voilà, plus de 3000 docteurs sont au chômage en Côte d'Ivoire et sont en train de marcher dans les rues. Moi, je dis, mais c'est le niveau le plus élevé du diplôme ou quoi? Comment on dit, tu as dit que des docteurs sont officiellement dans les rues et demandent de l'emploi? Non, je vous assure, là, c'est-à-dire, on est à terre. Je vous assure, là, on a fini quoi? On peut parler de licence au chômage, on peut parler de master au chômage, on peut parler de maîtrise au chômage, mais docteur au chômage, moi, je n'ai pas compris et je ne sais même pas comment expliquer.
Mais justement, comment est-ce que vous expliquez que les jeunes aient le bac au Bénin et après le bac se perdent, ne savent plus quoi faire?
Et c'est là que je vais aborder maintenant le deuxième volet de la partie de notre chroniqueur ou bien de la chronique. Vous prenez ces docteurs en question-là qui, voilà, sont en train de demander emploi dans les rues. Si véritablement, ils ont reçu des armes d'autodéfense durant leur parcours scolaire universitaire, ils vont jamais faire cela. Autrement dit, on ne commence pas une thèse parce qu'il faut commencer. Beaucoup ont fait thèse comme ça au Bénin. On fait thèse pour honorer sa famille, pour honorer ses parents, pour honorer la société, pour honorer, voilà, copain ou bien copine, pour peut-être trouver un poste en politique. Tout ça l'a fait que, aujourd'hui, officieusement, parce qu'on n'a pas les statistiques, on n'a pas les chiffres, officieusement, plus de 1000 docteurs sont en train d'errer dans la société. Qu'est-ce que je veux dire? L'orientation. Et quand on parle de l'orientation, ce n'est pas la décision de l'État. Chez nous, par exemple, Éducafrique, notre ONG, il y a une question qu'on s'est posée. Dans cette histoire de chômage, dans cette histoire de, je sais pas, jeunesse due au contrôle à 30 ans, qui est le perdant? Je n'ai pas dit les perdants. Le perdant. Et la réponse trouvée, c'est quoi? C'est le jeune. C'est le jeune titulaire de licence. C'est le jeune titulaire de master ou bien doctorat. Parce que d'abord, il a passé plusieurs années à l'école, à bûcher les leçons. Il revient due au contrôle. Ça veut dire qu'il est le premier perdant. Et quand on parle de premier perdant, il faut chercher la solution à ce perdant. Autrement dit, nos gouvernements, autrement dit, les membres de l'État ou bien du gouvernement n'ont rien à perdre. Ou ne perdent rien dans cette histoire de chômage. Le gouvernement n'a rien à perdre. Les entreprises n'ont rien à perdre dans cette histoire de chômage. Et je vous explique. Vous ne verrez aucun enfant de ministre, aucun enfant de député, aucun enfant de DG devenir, je dis bien, vraiment chômeur ou bien Dieu au contrôle à 30 ans. Moi, en fait, c'est pas possible. Ou peut-être, il peut avoir 0,001% de possibilité. Mais vous et moi, enfants de Dieu, a dit, enfants, hein, issus d'une famille peut-être vraiment modeste, trop modeste là. On va faire les écoles, hein, de rue pour commencer par écrire CV, pour commencer par trimballer des lettres de motivation après 30 ans. Autrement dit, quand on parle de l'orientation, quand on parle du chômage, il faut pas aller responsabiliser l'État. Non, il faut se responsabiliser. Il faut chercher où est le problème. Et quand je dis où est le problème, vous avez le bac. Vous voulez choisir quoi? Vous voulez aller où? Quelle décision vous voulez prendre? Et au Bénin, quand je viens au Bénin, 90% des nouveaux bacheliers et leurs parents cherchent à s'orienter après la délibération de l'office du baccalauréat.
Absolument, c'est le cas.
C'est raté. Je dis bien, ça, ce n'est pas l'orientation.
Mais comment ça peut se justifier que depuis la seconde, moi, Romuald Logbo, je décroche le bac en terminale et je continue par réfléchir à ce que je vais faire à l'université?
Mais c'est ça, en fait. Aujourd'hui, je peux vous montrer, par exemple, dans mon téléphone, plus de 1000, je dis bien plus de 1000. J'ai même fait, il a dit, créer, voilà, ce que Waza Business appelle étiquette.
Et le gouvernement béninois aussi a joué sa partition puisqu'il y a eu des tournées d'explications.
Je vous explique un peu.
Le choix de filière.
Je vous explique un peu.
Aux apprenants, aux nouveaux bacheliers, mais malgré les explications du gouvernement à travers ou par le biais de cette tournée-là, eh bien, les apprenants ont toujours du mal
en fait,
à faire
nous
un
avons,
choix.
Nous avons notre habitude à parler d'orientation. Quand on prépare, par exemple, les États-Unis, c'est un ami qui m'a dit, il y a en fait des gens qui font le travail que notre ONG fait. Et c'est l'État qui les a recrutés. On les appelle les moniteurs. Et chaque établissement, chaque zone a des moniteurs. Et ce n'est pas après le bac. Il y a un processus. Autrement dit, lorsque vous prenez un enfant qui est en classe de 4e aux États-Unis, il vous dit clairement là où il va. Essayons de prendre quelqu'un qui a licence ici. Moi, j'ai fait l'exercice. En 2019, on a fini une conférence zone master à l'université. J'ai pris un groupe de 10 jeunes qui sont tous en 3e année, fin de la formation cycle licence. À la question, vous allez où? Oui, on dit, ben voilà, on va chercher le diplôme, après on va voir. Vous voyez ça? Autrement dit, il faut d'abord aller dans le marché, il faut aller d'abord marcher avant de réfléchir à savoir qu'est-ce qu'on va aller faire au marché. Autrement dit, vous préparez votre valise, votre passeport, vous mettez de l'argent et vous allez à l'aéroport. Et vous demandez maintenant à ceux qui sont là-bas, on va dans quel pays? Il faut être malade pour agir ainsi. Mais c'est comme ça on est parti à l'université. C'est comme ça on s'est orienté. Et quand on dit s'orienter, il y a beaucoup. On s'oriente parce que papa a dit, parce que voilà, grand frère a dit, parce que maman a dit, parce que ainsi de suite. Et je vais nuancer quelque chose. Voilà, je profite de l'occasion pour nuancer quelque chose. Parce que vous avez parlé de l'État. Quand vous prenez l'orientation de l'État, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui ne comprennent pas ce que l'État explique. L'orientation selon les notes obtenues à l'examen. Ça, c'est pour donner la chance à plusieurs personnes de faire les études facilement. Vous voyez ça? Mais l'orientation au sens réel du mot, pour réussir dans la vraie vie, n'a rien à voir avec l'orientation. C'est-à-dire les choix effectués, je vais dire selon les notes obtenues à l'examen. Moi qui vous parle, Barnabé, j'ai fait deux fois le bac D à cause du pédigré croisement. Quand je dis ça souvent pour des gens qui ont fait série D, ça fait sourire. Pour la deuxième fois, je vous dis, j'ai eu 15 années SVT. Alors, durant toute l'année scolaire, j'ai jamais eu 12. En physique, j'ai eu 12, voilà, 15 années SVT, 12 en physique et 9 en mathématiques. Si on va m'orienter, on va dire quoi? Je vais faire la CBG peut-être. Mais je vous dis non. Les 15 que j'ai obtenus là, si on reportait la composition, parce qu'on fait SVT lundi soir, si on reportait la composition pour le lendemain, rien ne pourrait que j'aurais 10. L'autre exemple que je peux vous donner encore. Un premier de sa classe, il va les amener, il échoue. Elisabeth Blaila est 15. Moyenne annuelle, c'est-à-dire moyenne de l'année, il a eu, voilà, 17. Il va les amener, il échoue. Ou bien, il descend totalement et il trouve 12 de moyenne. Est-ce qu'on va prendre les 12 obtenus à l'examen là pour l'orienter? Est-ce que les 12 véritablement définissent sa vraie performance scolaire? Non! Vous voyez ça? Et donc, il faut dire d'abord que l'orientation selon les notes obtenues, les amis du gouvernement, c'est pour donner une chance à dire à beaucoup de gens pour avoir bourse, pour avoir secours. C'est-à-dire, il faut d'abord se connaître. Quand il dit se connaître là, il y a le processus d'observation qui est raté d'abord chez les parents. La majorité des parents qui déjà à la maison plus tard à 6 heures reviennent peut-être à 20 heures, l'enfant est peut-être déjà couché et c'est peut-être maman qui peut-être éduque seule les enfants ou peut-être c'est leur, voilà, bon, je ne sais pas, hein, qui éduque peut-être. Hein, les enfants ou bien c'est la société, c'est les réseaux sociaux qui éduquent. L'enfant va devenir ce que la société a voulu.
Dans un instant, on va se rendre à Lomé pour prendre quelques avis, notamment l'avis d'un révérend père très au fait, très observateur de la chose éducative. Mais avant, nous allons nous exercer à répondre à quelques questions du chroniqueur Maudi Johnson dans sa chronique. Maudi Johnson nous demande de vous demander à vous, notre invité, quel type d'éducation et de formation vous voulons-nous pour la génération à venir?
Voilà, d'ici 2050, quel Bénin nous voulons bâtir?
C'est-à-dire, c'est la question que c'est se la pose question qu'on Maudie doit... Johnson.
Voilà, et en fonction de cette question maintenant, on élabore la politique éducative. Qu'est-ce que j'appelle la politique éducative? Nous voulons avoir quel type de citoyen d'ici quelques années. Vous voyez actuellement, le pays est en chantier, la ville de notre président est en train de travailler. Or, si vous fouillez bien dans la liste là, les entreprises qui ont gagné ces marchés, les ingénieurs qui travaillent vraiment sur ces chantiers, c'est des gens qui ne sont pas béninois. Vous voyez ça? Ça veut dire quoi? Il faut d'abord former selon nos problèmes, selon nos défis, selon nos enjeux. Et quand on dit former là, il y a ce qui manque objectivement parlant, qui est quoi? Les armes d'autodéfense. C'est comme si vous allez par exemple dans l'armée. C'est comme si vous allez par exemple dans l'armée et vous formez des officiers sans leur apprendre, hein, c'est-à-dire sans leur donner les outils d'autodéfense sur un terrain de bataille, bien c'est pas. Ils veulent par exemple aller de jouer, c'est pas, hein, un groupe de terroristes. Mais eux-mêmes, ils n'ont pas les armes, ils n'ont pas les techniques pour aller se défendre. Mais ils seront massacrés. Autrement dit, le terrain de chômage ou bien le terrain d'emploi, c'est un terrain de guerre. Et donc, il faut avoir des armes d'autodéfense. Vous voyez par exemple les instincteurs de feu, c'est comme ça que vous appelez, non? Ça, en fait, ce n'est pas juste pour honner les entreprises ou bien pour honner, voilà, les couloirs qu'ont les entreprises, mais ça, c'est pour anticiper d'éventuels incendies, d'éventuels accidents. Autrement dit quoi? Chaque jeune qui vient dans une classe, qui vient à l'université, doit sortir avec des armes d'autodéfense, de garantie. Pour que quoi? À la fin de sa formation, si éventuellement le chômage disait bonjour, lui, il a déjà des armes pour dire non à ce chômage. Autrement dit, quand on parle de djihadisme, c'est quoi? C'est la frustration de la jeunesse. C'est des jeunes qui sont frustrés. Et quand vous voyez les images des gens qu'on tue, on dit que c'est des djihadistes. Vous voyez des blancs dedans? Non, c'est des noirs comme vous et moi. C'est des béninois peut-être, c'est des burkinabés peut-être, c'est des togolais, c'est des ivoiriens. Ça veut dire quoi? C'est dans notre jeunesse, il y a, voilà, cette catégorie, hein, d'individus qui peut-être sont frustrés, peut-être n'arrivent pas à résoudre les problèmes, hein, le minimum, ont décidé maintenant de devenir problème, de devenir l'ennemi à battre pour la nation. Ça veut dire quoi? Il faut trouver une solution. Récemment, j'ai lu un monsieur journaliste qui disait que dans nos prisons, environ 60%, même 80% des prisonniers sont des jeunes. J'ai dit, mais vous n'avez pas compris. C'est le chemin qui amène ça. En fait, vous voyez par exemple, je ne vais pas donner d'exemple, mais voilà. Vous voyez par exemple nos frères qui ont dit, ils sont Gaïman et autres et autres. Vous croyez que c'est leur responsabilité? Mais c'est leur faute à 100%. Même s'ils sont responsables, ils ne sont pas les premiers responsables. Je vous explique. La majorité des Gaïman que moi je côtoie, c'est des gens qui ont fait l'université, qui ont licence, qui ont maîtrise, qui ont master. Vous avez dit à la personne, au jeune, à l'enfant, depuis déjà 5 ans, vous chantez dans ses oreilles, va à l'école, travaille dur, il faut avoir les notes, il faut avoir les diplômes, ton avenir est garanti. Le jeune a fait ça. Le jeune a fait ça, il a rempli les critères, il a rempli les conditions. Mais il vient de la société, une fois maintenant il décroche sa licence, une fois maintenant il décroche son master, il se rend compte que la clé de l'avenir question est jetée dans la mer. Et donc maintenant, il fait face maintenant à la vraie vie.
Il s'occupe autrement,
il cherche autrement de solution.
Donc, mais vous voyez, pas forcément la bonne solution.
Je ne suis pas là pour dire que c'est la bonne ou bien la mauvaise.
Mais c'est pour dire que nous sommes
tous responsables. Et donc, quand on dit quel système éducatif, quelle politique éducative nous voulons-nous, ça, la réponse ne doit pas venir seulement de l'État. En tant que parent, quelle est ma responsabilité pour mon enfant lorsqu'il aura 25 ans? Par exemple, moi, je dis partout, dans toutes les émissions, dans toutes les tournées, conférences, je dis tous mes enfants à 25 ans, c'est au dehors. Ce n'est pas je parle, c'est pas la bouche. Je fais tout pour que l'enfant à 25 ans ait le minimum pour payer le loyer de 10 000 francs de quelqu'un lui-même, pour manger au moins, ça dit 2 repas par journée lui-même. Ça, c'est un engagement, c'est un devoir qui n'a rien à voir avec l'État. Parce que je suis perdant lorsque je retrouve mon enfant à 27 ans, Dieu au contrôle. Vous comprenez?
Qui est au chômage, qui est en échec social.
Et donc, on a fait l'erreur depuis des décennies en confiant 100% de l'avenir de la jeunesse à l'État. Or, même l'État, c'est préoccupation majeure, l'État, c'est défi, l'État, c'est pour problème à résoudre. Vous voyez ça? Et donc, nous sommes tous responsables. Conséquence, nous devons tous chercher à répondre à la question quel bénéfice dans 2050, quel bénéfice dans 2060 et agir en conséquence.
Banabé Kouélo, le temps presse. Cette émission va se poursuivre, mais avec un autre invité, nous allons nous rendre au Togo pour retrouver le révérend père Edmond Atsou Dété. Vous l'avez dit, les problèmes sont les mêmes dans l'espace francophone en Afrique, que l'on soit au Togo, que l'on soit au Bénin, que l'on soit au Niger, que l'on soit au Burkina, que l'on soit en Côte d'Ivoire, les problèmes sont les mêmes. Nous allons prendre l'avis du père, du révérend père Edmond Atsou Dété. Bonjour très cher père, merci d'intervenir dans cette émission que vous inspire comme commentaire le décryptage de Barnabé Kouélo et bien évidemment la chronique de Maudi Johnson, notre expert maison, chroniqueur, sociologue, philosophe, planificateur de l'éducation.
Bonjour et merci de me donner cette occasion pour partager avec vous et sur la chronique de M. Maurice Johnson. Merci à tous les auditeurs aussi et félicitations à toute l'équipe pour le travail magnifique que vous faites. Donc concernant la chronique de Maudi cette semaine, il soulève un débat au sujet des politiques d'orientation de l'éducation et de la formation des jeunes dans nos pays. Il signale les incohérences et les incongruités qui gangrènent les pratiques qui ont cours dans le management de ces secteurs. Les solutions d'approche qui sont proposées se révèlent souvent des réponses inappropriées aux besoins réels sur le terrain. Nos pays sont essentiellement jeunes. Et comme on le dit souvent, la jeunesse est la relève de demain. Pour cela, il faut que, dès aujourd'hui, elle soit préparée et formée en conséquence pour avoir les moyens d'assumer les enjeux de demain et constituer ainsi la ressource humaine avérée et compétente sur laquelle nos pays peuvent compter. La politique d'orientation se rapportant à des actions d'organisation et de planification du secteur de l'éducation et de la formation, elle doit pouvoir servir d'indicateur, d'investigation et de prospective dans les domaines concernés. Ces élaborations et recommandations doivent permettre de cerner, d'identifier et d'évaluer les besoins à plus ou moins court ou long terme, tout en veillant à ce que sa définition des objectifs tienne compte des grands enjeux sociétaux qui confrontent nos pays. De même, les solutions à envisager doivent savoir anticiper sur l'acuité et l'urgence des besoins que suscite chaque enjeu en situation, afin de les aborder en déroulant un plan d'accomplissement qui corresponde aux aspirations des populations et aux impératifs de développement de nos pays. Une telle approche d'élaboration de politiques d'orientation se révélera un vrai potentiel en capacité de réactivité et de production endogène de réponse aux problèmes qui se présentent à nos sociétés. La dynamique qui s'en dégagera suscitera des initiatives auto-assumées qui s'exprimeront en responsabilité, en volonté de prise en main de soi, d'appropriation et de maîtrise progressive des facteurs de sa propre destinée en tant que peuple. C'est une forme de capacitation individuelle et collective dont une société humaine doit faire montre face à ses besoins et les satisfaire pour s'accomplir en toute sécurité et autonomie. L'ennui dans nos pays, c'est que tout est devenu politique. On fait de la politique avec tout et surtout, tout est devenu objet de spéculation et de manipulation politicienne. Même la vie des populations et les grands enjeux sociétaux deviennent politiques. Dès lors, on comprend que les besoins en situation fassent aussi l'objet des mêmes traitements et tendances à la singerie politicienne, produisant ainsi dans nos pays des politiques viciées d'orientation de l'éducation et de la formation des jeunes. Des politiques inconséquentes face aux enjeux et totalement inappropriées. C'est dommage, mais c'est ainsi et c'est un fait. Alors, à quand une véritable politique de l'orientation? Cela va supposer une vraie volonté politique totalement décomplexée de l'assujettissement consenti des peuples africains qui ne se vivent en autonomie et volonté intrinsèque de s'assumer en tant qu'acteurs de leur propre histoire. Ils n'actent pas ce qu'ils veulent devenir et ils ne s'efforcent pas à s'émanciper volontairement des entraves et contingences qui veulent les maintenir dans la servitude. C'est une volonté politique qui doit se manifester à ce niveau-là. Cette volonté politique d'aller à cette perspective d'accomplissement auto-assumé doit naître et s'affermir au niveau de chaque gouvernance étatique, mais elle deviendra plus opérationnelle dans le cadre panafricain d'une renaissance culturelle. Cela va supposer des actions concertées et intégrées entre les États, des politiques d'orientation nationale articulées sur des objectifs supranationaux. Il s'agira d'afficher une ambition d'accomplissement à l'échelle régionale ou continentale, même si l'articulation des programmes partira des points focaux que sont les États-nations. Cela dans un souci d'harmoniser les propositions de solutions et de rentabiliser les coûts des investissements. Cela va supposer aussi une prise en charge globale des contingences qui s'expriment dans le contexte des sociétés africaines et qui agissent comme des facteurs externes et internes de détermination des enjeux et dont les actions de conditionnement qu'elles génèrent sont aussi d'ordre endogène et exogène. C'est à tous ces niveaux qu'il faudra agir pour élaborer les politiques d'orientation. Leurs objectifs doivent être transversaux aux enjeux que tous ces facteurs engendrent dans le contexte des sociétés africaines. Tout cela ne sera possible que grâce à une volonté politique manifeste et l'effectivité du déploiement d'une série d'actions concrètes qui ne souffriront pas d'entraves inutiles ni de malveillance ou obstruction politicienne. D'abord, tous les créneaux classiques sont toujours porteurs, mais il faut les révisiter et actualiser leurs objectifs. Cependant, l'accent sera mis sur les sciences et les mathématiques. L'ENTICS, c'est-à-dire nouvelles techniques de l'information et de la communication, la logistique et le transport, les BTP, l'histoire et l'archéologie, avec la réintroduction de la vraie histoire du continent et des Noirs. La pédagogie aussi à employer doit être revue pour permettre une adéquation du système éducatif au marché de l'emploi et aux besoins des populations. On mettra l'accent sur l'excellence et la possibilité offerte à l'apprenant de réaliser son propre potentiel. Les filières seront définies dans une approche STEAM ou bien encore en anglais STEAM, ce qui est l'anagramme de sciences, technologies, ingénierie, arts et mathématiques qui constitueront ainsi le socle ou bien l'axe d'articulation de l'offre éducative et de la formation jusqu'au bac. Ensuite, les offres de formation universitaire et professionnelle emprunteront toujours les mêmes axes tout en organisant les filières en fonction de deux directions de contingence qui provoquent des enjeux sociétaux spécifiques. La première direction concerne les grands enjeux sociétaux liés au contexte du monde qui se pense globalisé et où un ordre impérial et prédateur veut faire du continent africain une réserve de ressources minières et énergétiques à exploiter à vil prix. Pour cela, cet ordre est prêt à créer le désordre et le chaos pour déstabiliser nos pays et les rendre ingouvernables, donc incapables de s'organiser en vue de leur bien-être et épanouissement auto-assumé. Tout ce qui se passe dans le Sahel et de plus en plus dans les pays du Golfe, sont un exemple d'illustration. À terme, une guerre dans cette partie du monde avec des participants qui agiraient parafricains interposés n'est pas exclue, puisque les dites réserves logées dans la plateforme continentale du Golfe de Guinée est estimée considérable. Les secteurs concernés sont les mines, c'est-à-dire divers minerais, le gaz, le pétrole, l'eau potable et les ports maritimes. Sachant qu'ils ne pourront pas échapper à la volonté des puissances du monde de venir se servir en Afrique, il revient donc au continent et aux États africains d'anticiper pour que l'exploitation de toutes ces ressources serve aussi à accomplir et à enrichir les populations. En termes de formation, c'est maintenant ou jamais d'orienter et de développer des filières se rapportant au corps de métiers liés à l'exploitation de ces ressources. Ingénierie de toutes sortes, surtout liées aux plateformes, au traitement des minéraux disponibles, à la maîtrise et production de l'énergie sous toutes ses formes, etc. Si nos États ne le font pas, une fois de plus, ce seront des expatriés halogènes qui viendront rafler la mise aux populations autochtones incompétentes, donc incapables d'avoir droit aux usufruits de l'exploitation de leurs propres ressources. Dans le même ordre d'idées, nos pays doivent se préoccuper sérieusement de la constitution de leurs armées nationales, leur formation et les finalités à leur assigner, défense nationale et non pas essentiellement protection et défense des régimes en place. Constitution de ces armées et des armées régionales ou alors de cadres consensuels d'intervention militaire intégrés entre plusieurs armées nationales. Il faudrait pour cela former des ressources humaines compétentes. Et la deuxième direction est celui des grands enjeux sociétaux liés aux défis du millénaire, surtout aux défis du 21e siècle. Six grands enjeux sont à retenir et peuvent orienter des profils de formation ou des filières à développer. Le premier enjeu, c'est l'énergie pour un développement durable. Quelle énergie pour aujourd'hui et demain? Des énergies renouvelables au nucléaire, que faire en Afrique? De l'hydroélectricité à l'hydrogène, des habitats au transport, puisque tout cela utilise l'énergie, du stockage et la maîtrise de l'énergie. Ce sont des problématiques autour desquelles des filières de formation peuvent se développer tranquillement. L'eau, c'est le deuxième enjeu qui va être un enjeu sérieux, source de conflits entre les États et entre les parties du monde. Une gestion efficace de la ressource, assumer la qualité et la quantité de l'approvisionnement, lutter contre le gaspillage et la pollution en milieu urbain et rural, prévenir les risques d'inondation et de sécheresse, aménager le territoire avec des ouvrages respectueux de l'environnement. Voilà des problématiques autour desquelles des formations peuvent se développer. Et nos pays doivent s'en préoccuper sérieusement. Le troisième enjeu est celui de l'environnement. Milieu naturel, industriel et urbain, impacts environnementaux et développement durable, des technologies propres et sobres, des aménagements intégrés dans les milieux naturels, de la réduction des émissions de gaz à effet de serre au changement climatique, une gestion des risques naturels et technologiques, autant de problématiques qui sont là autour desquelles des formations doivent être développées pour que nous soyons capables de faire face à toutes les situations qui se présentent dans nos pays et préparer des ressources et compétences disponibles pour cela. Quatrième enjeu, information et société numérique. Développer toujours l'INTIS puisqu'il est avéré que c'est un détour, un raccourci pour rattraper le retard dans beaucoup de domaines et cela, l'Afrique ne doit pas s'en passer. Cinquième enjeu, santé globale et bio-ingénierie, phytosanté et harmonie cosmique. C'est le moment ou jamais pour le continent de pouvoir avoir une démarche à la fois sérieuse, scientifique, qui intègre toutes ces personnes qui manipulent les plantes, qui ont des connaissances et que beaucoup de nos médecins qui sont restés dans l'approche occidentale ne connaissent pas et qui gagneraient beaucoup à approcher pour pouvoir s'informer et permettre une diffusion de cette connaissance qui est logée là et qui attend toujours que l'Afrique s'en saisisse correctement. Et le dernier enjeu, c'est le transport. Si ce que nous disons et si tout ce mouvement va se faire dans le continent, il va falloir des infrastructures de liaison des zones, régions et autres, donc le transport et la possibilité de mobilité des populations et de tous ceux qui viendront pour pouvoir attirer et agir dans le continent pour telle ou telle raison. Donc le transport, structure, infrastructure et mobilité, tout cela constitue des enjeux et qui, avec des problématiques autour desquelles des formations peuvent se développer. Ainsi donc, il revient au continent africain de prendre conscience de tous ces enjeux qui le confrontent et de s'en saisir comme opportunité pour organiser et leur propre assumation de leurs conditions, de leur environnement, les problèmes qui se posent, comment on va les aborder et ne pas attendre toujours que quelqu'un vienne nous dire voilà ce qu'il faut faire, voilà comment on doit le faire et orienter autrement et négativement les choses. Donc, prendre ces enjeux à bras le corps, ne pas attendre que d'autres s'en saisissent et aller dans le sens de dire on constitue les compétences pour pouvoir les aborder et faire ce qu'il faut pour que nos sociétés soient en sécurité, que nos populations soient en sécurité, sécurité humaine, donc pouvoir se développer, s'accomplir et utiliser les ressources qui sont les leurs pour leur propre bien-être. Voilà, merci beaucoup. C'est ce que je voudrais vous apporter comme contribution à cette thématique que Maudy a soulevée, très intéressante, très actuelle, et qui remet encore en cause nos fonctionnements dans nos sociétés. Merci.
C'est nous qui vous remercions, Révérend Père Edmond Atsou Dété. Merci pour vos riches analyses de cette belle chronique de Maudy Johnson qui relance le débat sur la professionnalisation des filières et l'orientation scolaire. Retour dans ce studio avec notre invité Barnabé Kouélo. Nous sommes presque au thème de cette émission. Aidez-nous à la conclure.
Merci beaucoup à vous. Je tiens à dire merci au Révérend Père pour, je vais dire ça, riche contribution, parce qu'il a détaillé, quand il a détaillé.
Et il a fait beaucoup de propositions.
Oui, c'est exactement de ça que je voulais parler. Il a été précis, quand il a été précis, dans chaque secteur, dans chaque domaine, qu'est-ce que nous devons faire? Quel est le plan que nous avons et qu'est-ce que nous devons faire? Et comme je le disais avant, je vais dire son intervention, la réponse, selon nous, Éducafrique, la réponse est très simple. C'est une question qui concerne chacun de nous. Même dans la rue, même celui qui est dans la rue, cette question, concerne ce dernier ou bien cette dernière. C'est une responsabilité partagée. Nous ne pouvons pas laisser uniquement les décideurs. Et d'ailleurs, ils ne sont pas les premiers perdants. C'est très important. Nous sommes les premiers perdants. Et conséquence, si nous ne voulons pas être, des dieux au contrôle après 30 ans, à nous d'abord de jouer notre partition, notre rôle, et le reste va venir. Souvent, nous finissons nos publications par « demain, c'est aujourd'hui ».
On vous aura compris, Barnabé Kouélo. Le temps presse parce que notre émission s'installe après chronique en débat. Je vais, à mon tour, conclure avec cette belle réflexion de Laurent Ladouce qui dit, citation, Barnabé Kouélo, « Le Bénin est un pays stable, en paix. Ce n'est pas une île, mais s'il veut réussir, il a peut-être intérêt à décentraliser son système éducatif et à créer des îlots d'excellence. C'est parfois ainsi que certains pays décollent. Le Bénin ferait bien de se doter aussi de quelques établissements vraiment cosmopolites, internationaux, avec des professeurs venant de systèmes différents. Quand on a des voisins plutôt bien classés comme le Nigeria ou le Ghana, pourquoi se priver de leur expérience? Formule conclusive, interrogative qui relance le débat sur la professionnalisation des offres de formation et sur l'orientation scolaire. Vous avez été très bénéfique pour nous, très prolixe en réflexion également, Barnabé Kouélo.
Merci beaucoup à vous.
Nous allons vous inviter de nouveau dans ce même studio pour poursuivre ce débat, mais dans un autre contexte. Merci d'avoir accepté matinalement notre invitation. Je rappelle que vous êtes Barnabé Kouélo, vous êtes spécialiste des questions éducatives et d'orientation. Vous êtes le président de l'ONG Éducafrique. Merci beaucoup à vous. Merci également à vous, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute, d'avoir écouté attentivement cette émission, notamment en ce qui concerne les propositions des différents consultants qui sont intervenus dans cette émission. C'est donc fini pour aujourd'hui. On va se donner rendez-vous mardi prochain pour un autre numéro. Partie technique, Ferdinand Zamba. À la réalisation, Gloria Divessode. À la présentation, Romuald Logbo, coordination éditoriale Ulrich Vital, à Rotondi, sont intervenus dans cette émission. Maudi Johnson, par le biais de Gloria Adivesodi à travers sa chronique, le révérend père Edmond Atsoudete depuis le Togo et Laurent Ladouce depuis Paris. Portez-vous bien. Bonjour à Simon Rossi. À mardi prochain pour un autre numéro.
La chronique en débat, c'est l'actualité éducative avec l'éditorial de l'Esprit, comme l'a dit Maudie Johnson, analysé et commenté par Laurent Ladouce. La chronique en débat, c'est chaque semaine sur la web radio du groupe Éduc Action.